Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Salut les gens, bienvenue dans Focus Store, le prolongement radio du magazine Focus Vif, avec une équipe réduite à la caisse du magasin aujourd'hui, réduite mais terriblement efficace. Autour de la table, il y a le chef caissier, qui vérifie qu'on ne met pas des sous en poche et qu'on ne dépasse pas le quart d'heure réglementaire de pause, Laurent Raphaël. Bonjour.
Bonjour, madame.
Qui est aussi rédacteur-chef du magazine. Il y a Kevin Dauchin, le gentil, qui vient toujours en renfort caisse quand les autres ont besoin de lui, même quand il est en pause. Kevin, qui est le journaliste polyvalent de la rédaction.
Merci, bonjour.
Et Olivier Van Varenberg, qui a des trous dans sa caisse tous les soirs, il ne sait pas pourquoi, et qui est le reste du temps spécialiste des bouquins et des BD. Salut, Olivier.
Bonjour, Myriam, demandez qu'est-ce que c'est, que, s'il vous plaît, en deux bénamerey.
Ah oui, ah, dans, en deux langues.
Ah, ah le Colreuth, une grande, la culture bruxelloise, ça, madame.
On ne fréquente pas les mêmes supermarchés. On parle aujourd'hui du film Lincoln de la série Downton Abbey, du disque Long Live Azab d'Azab Rocky et du roman Pickpocket de Fuminori Nakamura. Et on débute avec du cinéma. Et Lincoln, le film qui part favori à la course aux Oscars avec 12 nominations, parmi lesquelles meilleur film, meilleur réalisateur pour Steven Spielberg, meilleur acteur pour Daniel Day-Lewis, meilleur acteur dans un second rôle pour Tommy Lee Jones et meilleure actrice dans un second rôle pour Sally Field. Lincoln, c'est un biopic qui, comme son nom l'indique, traite du 16e président des États-Unis pour se concentrer sur les derniers mois de sa vie, ceux pendant lesquels il va s'atteler à abolir l'esclavage aux États-Unis. On est en pleine guerre de sécession entre le nord abolitionniste et le sud esclavagiste. Et alors que sur le terrain, les affrontements tournent au bain de sang, dans les salons, c'est une guerre d'influence qui se joue. Lincoln, c'est un film patriotique à l'américaine, avec de la musique de rigueur et ses grandes envolées de violon. C'est du pur Spielberg. Alors on aime ou on n'aime pas, mais on ne peut que reconnaître que c'est particulièrement didactique, pédagogique et que c'est une jolie façon d'enseigner l'histoire, peut-être aux plus jeunes. Alors cependant, moi je vous confessais que je me suis endormie pendant la vision de
presse.
Oui, au moins, je me suis fait capter par le chef, la honte, je savais pas que t'avais vu, j'avais tout fait pour que t'aies vu. Je suis pas très fière, mais bon, ça m'a semblé tellement long, 2h29, avec une interminable partie où le président et ses acolytes doivent convaincre un à un toute une série de parlementaires, très long, très bavard, puisque c'est un film en chambre construit exclusivement, quasi sur des dialogues, il faut se les taper quand même. Mais Laurent, je pense que toi, t'as aimé ça, t'as pris frénétiquement des notes.
Oui, moi j'ai tout noté, y compris tes ronflements.
C'est pas vrai, je ne ronfle pas.
Non, franchement, je suis presque un peu déçu qu'il se retrouve si bien placé aux Oscars, parce qu'il va y avoir une réaction assez
de rejet.
Voilà. Ouais, je suis dedans, tout à fait. Alors, je dois le dire, je ne l'ai pas vu. Hein. Je suis le seul autour de cette table, mais j'ai déjà un avis.
Voilà, mais c'est ça. Il y a un peu trop plein. C'est Spielberg, on connaît le personnage. Il est aux Oscars, il va rafler la mise. Et, voilà, et du coup, il va y avoir un phénomène de rejet.
Voilà. Et Spielberg plus Daniel Day-Lewis plus l'histoire américaine. Oh, j'ai déjà peur.
C'est déjà lourd. mais fondamentalement, c'est un film passionnant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment délicieux, complexe. Alors, il parle d'une tranche des États-Unis qui est essentielle, évidemment, avec toute la question de l'abolition de l'esclavage. Alors oui, c'est un film, c'est un huis clos, c'est très rhétorique, c'est les coulisses du pouvoir, comment le pouvoir passe d'une main à l'autre, le jeu d'influence, comment la moralité est mise de côté pour arriver à ses fins, mais c'est fait avec une subtilité et un didactisme qui force l'admiration, parce que je trouve que, voilà, arriver à parler d'un thème aussi complexe, qui est historique, qui remonte à plus d'un siècle, qui peut... pour un grand public paraître un peu lointain et un peu désincarné, arriver à le faire pénétrer dans les coulisses et lui montrer comment la mécanique du pouvoir, qui est toujours, à mon avis, d'actualité aujourd'hui, lui montrer comment ça fonctionne, comment il faut être roublard, parce que Lincoln Lay, qui est obligé de mettre sa moralité aussi un moment de côté pour arriver à ses fins, ben, je trouve ça vraiment délicieux. Alors, au-delà de ça, il y a quand même ce qui force aussi l'admiration, je trouve, c'est cette capacité des Américains, et de Spielberg en particulier, à écrire leur propre histoire.
C'est terrible.
Et c'est phénoménal parce que finalement, c'est un jeune pays qui, on le dit souvent, qui n'a pas de passé, qui en souffre un peu. Mais ils ont cette capacité à prendre le peu d'histoire qu'ils ont et à le mettre en scène et à l'élever dans une espèce de chant comme ça, presque mythologique.
Ah, tout à fait,
et, c'est exactement. Et je crois que Spielberg y arrive très bien. Et quand il est au meilleur de sa forme, ce qui est pour moi le cas ici, eh bien, il arrive à combiner à la fois le côté grandiose d'une espèce de peinture un peu grandiloquente avec la musique et tout ce qu'il faut derrière, mais aussi avec du fond. Et je pense que l'Américain moyen qui va aller voir ce film, non seulement il est quelque part fier d'être américain, il sort du film encore plus
chouette.
Fier qu'avant.
Oui, mais, il a bien raison.
On en avait besoin.
Mais c'est, quelque part, c'est une espèce de ciment aussi patriotique, avec ici le bon côté, c'est que c'est l'histoire, c'est les pages plus sombres, mais aussi les meilleures pages de l'histoire américaine qui s'émancipent,
c'est
pas mal de choses.
À peu près ça aussi.
Les seuls quoi
On l'a dit, ils n'ont pas beaucoup d'histoire, et donc c'est ce côté, j'ai pas vu le film, mais ce côté sanctifié en permanence le peu d'histoire qu'ils ont, leur préhistoire, c'est le 18e siècle. Quoi.
Et Laurent, tu ne trouves pas qu'il y a une heure pas utile de palabres
Moi, je ne trouve pas parce que je trouve que ça aurait même pu continuer. Enfin, je dis, deux heures passées, c'est bien, on a notre dose, mais je trouve qu'il entre dans une rhétorique et Daniel Day-Lewis est assez phénoménal dans son rôle.
Vous allez le dire, il est Lincoln.
Lincoln, on n'a pas d'image animée de lui, donc c'est
mais difficile. Il est crédible en tout cas dans ce rôle-là.
Oui, il est phénoménal. Il disait dans une interview que le maquillage avait fait beaucoup pour rentrer dans le personnage. Et voilà, mais au-delà de ça, on connaît le bonhomme, une interprétation aux petits oignons, mais c'est aussi le jeu de la rhétorique, parce que moi je trouvais ça qui était passionnant, de montrer comment on peut retourner les gens. Les opinions, l'opinion de politiciens qui ont des idées bien arrêtées. Ici, Tommy Lee Jones, en l'occurrence, qui est un libéral qui, on verra par à la fin du film, enfin, je vais pas révéler, mais on comprend mieux pourquoi il est pro-abolitionniste.
Parce qu'il est chauve.
Tu t'es réveillé juste au moment où
d'ailleurs, il retire sa perruque.
D'ailleurs, il faut mettre absolument une mention à sa perruque, je trouve, qui est assez.
Qui est va faire des jaloux, oui, c'est ça.
Qui est l'élément lol du film.
C'est du gros lol.
Mais oui, voilà, ce personnage-là, qui est dans sa complexité, qui a des idées bien arrêtées, qui va aussi devoir mettre de l'eau dans son vin. Enfin, voilà, c'est des enjeux complexes, donc ils mettent du temps à s'installer. Et je trouve qu'il y a une espèce de rhétorique et d'humour, parce que Lincoln a beaucoup d'humour.
Oui, ça, c'est vrai.
Et il amène les choses, il retourne les gens, l'air de rien, à travers.
En racontant des histoires, oui.
Voilà, notamment tiré de son passé d'avocat. Qui lui a beaucoup servi, et il arrive à retourner les gens comme ça, une opinion et un parlement avec des discours, des mots choisis, et c'est une espèce d'éloge aussi au verbe que je trouve assez jubilatoire.
Mais dormez bien la veille, c'est important.
Moi, oui. Si je t'entends bien, c'est un peu 12 hommes en colère pendant la guerre de sécession.
Ouais,
ouais,
c'est
vrai.
Un film.
Non, c'est vrai. Sauf que j'ai autrement plus aimé 12 hommes en colère.
Ouais, il y a quelque chose de ça. Il y a aussi ce qui est quand même frappant, c'est que Spielberg ne fait pas que de bonnes choses, hein, puisque on sortait de War Horse, qui est une espèce de salmigondi affreux, avec aussi là tous les mauvais côtés de Spielberg qui fait une espèce de d'ode au cheval patriotique. Et enfin, c'est vraiment. C'est insupportable, mais quand il met ça au service d'une page d'histoire et des enjeux complexes qui continuent à, c'est ça aussi qui est intéressant, qui continuent à faire fantasmer et à troubler les Américains, puisque la thématique, elle revient dans d'autres films actuels, quoi. Enfin, c'est toute la place des Noirs dans la société américaine.
D'ailleurs, lançons un débat, faut-il ou ne faut-il pas réhabiliter l'esclavage
dans le débat de
aujourd'hui.
Non, oui.
on va débattre là-dessus. Après.
Kevin,
Tarantino est dans cette thématique-là, je suppose.
Ouais, quoi. Ouais.
Mais dans cette mythification plutôt de l'histoire américaine, je me demande, ce serait bien d'avoir un avis d'historien qui s'y connaît vraiment à fond à la matière, parce que je me demande à quel point il n'y a pas une espèce de recherche absolue du suspense de la part de Spielberg. Dans le film, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où justement il y a un télégramme qui arrive et le mec qui l'apporte en cheval arrive à la seconde pile devant le tribunal, enfin, ce genre
je
de truc.
Je n'ai pas vu le film, mais je vois les scènes quand Kevin en parle. Ah, oui, ouais, il en parle tout bien. À fait, c'est mais deux
ça,
secondes.
C'est, ça, c'est, ce sont les outils fictionnels classiques. Au début de Downton Abbey, dont on va parler, il y a aussi un télégramme qui arrive et qui bouleverse la vie du château. Oui, mais enfin, c'est... Je veux dire, dans Borgen, on en a suffisamment parlé, le suspense est à son climax.
Dans
à
Argo épisode. Aussi, hein, sur le téléscripteur.
Voilà, c'est un petit peu, ça fait partie du jeu. Forcément, oui. Ça, c'est l'emballage narratif. Mais a priori, de ce qu'on a pu savoir, il s'est quand même vachement documenté sur le.
Mais est-ce que c'est nécessaire au bon avancement du film? C'est ça que je me suis posé en.
Moi, je me suis quand même endormi. Hein. Suspense, c'est pas suspense.
Justement, si on avait retiré ce peu de suspense, rien m'aurait dormi pendant tout le film.
Maintenant, le film a beaucoup de qualités didactiques, justement. Effectivement, c'est.
Ah, c'est un cours d'histoire avec des moyens hollywoodiens.
C'est vrai qu'on en parlait. Après...
Est-ce que c'est de l'histoire ou de la sanctification? C'est ça qui me gêne, moi, dans ce genre d'opération hollywoodienne autour de l'histoire
américaine.
C'est un
peu des deux. Hein.
Mais c'est ça, avec les Américains, c'est difficile de dissocier.
Il n'y a pas beaucoup
deux,
de nuances, quoi.
Non, c'est pas un film indépendant. On est bien d'accord. C'est un film, il y a un côté institutionnel.
Tu nous en parlais, tu disais que ce serait peut-être bien d'envisager ça à la sauce belge pour nous parler de nos propres révolutions.
Mais pour se faire une petite idée, quand même, de l'ampleur de la tâche. Si on imaginait un film d'une telle ambition avec les mêmes moyens qui reviendraient sur la muette de Portici, l'indépendance de la Belgique, on serait quelque part, malgré tout, un peu ébloui. Enfin, il y aurait peut-être une fierté qui s'exprimerait aussi.
Je crois que tu voulais que Spielberg fasse une vidéo de Fabiola, je comprenais. Il y a de la matière.
On peut l'inviter, mais je doute qu'il trouve les budgets suffisants auprès de la COCOF.
Avec une aide de la COCOF, ça devrait aller.
Beaucoup d'acteurs de séries aussi. Hein.
Oui.
On a relevé quoi? On a relevé les acteurs de 24 heures chrono.
Pushing Daisies aussi.
Ouais, Mad Men, The Shield.
Mad Men? Là, j'ai pas repéré de Mad Men.
Madame Irène.
Si, bah, le directeur financier de Mad Men.
Oui, effectivement.
Ah, voilà, tout se rejoint, tout se recoupe.
Bah, Myriam, alors, petite question. Ces acteurs, ils sont là parce que c'est la hype des séries ou parce qu'ils sont, tellement bons que Spielberg doit les prendre et ne peut pas s'en passer?
Mais je ne sais pas. D'ailleurs, dans Argo, j'en parle tout le temps, mais il y a aussi quasi que des acteurs de séries.
Tout à fait.
Donc, à mon avis, parce qu'ils sont bons. Et quand il faut avoir un grand.
C'est du casting aussi, c'est clair.
Un très large casting, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de personnages. Dans Lincoln, il faut parfois aller gratter ailleurs que sur le grand
écran. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, parce que pour faire toute cette assemblée...
On voit l'argent à l'écran.
Mais ce gars de Pushing Daisies, dont je n'ai aucune idée du nom...
Lee Pace.
Lee Pace. il fait très très bien son rôle de gars de l'opposition
qui
crache son venin.
On n'a pas ces images de série qui nous reviennent.
Non, c'est ça.
C'est pas comme si on voyait Julie Lescaut.
Voilà.
C'est un film victorien.
Au-delà du patriotisme, je trouve que justement, les mauvais, entre guillemets, c'est-à-dire les sudistes, sont quand même représentés de manière intelligente, parce que les arguments économiques ou opportunistes qui sont présentés sont quand même traités avec compréhension et sont bien mis en évidence aussi. Donc c'est plus subtil que simplement un message univoque sur la grande Amérique.
Il y a des films de Spielberg que j'adore, hein, soyons clairs. C'est un grand cinéaste. Joe, c'est mon... film culte, dis Justin Bieber, je pleure à chaque fois. Enfin, ouais. Oui, je pleure beaucoup, décidément. À chaque fois que je parle d'un film avec Myriam, je pleure. On va se prendre un bon polar après. Mais...
Bon, allez, une petite cote sur 10, moi je lui mets 5.
Ah, moi je vais jusqu'à 8 quand même.
Kevin?
Un bon 7 pour moi.
C'était donc Lincoln, le film de Steven Spielberg. La série de la semaine, c'est Downton Abbey, et pas Downtown, c'est O-N
voilà.
À la fin.
Yes, lady. Downton Abbey.
Okay. Dans la première saison, est sorti chez nous en DVD. C'est un gros succès pour cette série anglaise dont même les Américains sont complètement fous. Sa troisième saison est diffusée actuellement aux États-Unis. Elle fait un incroyable carton et même Saturday Night Live s'est emparé du phénomène en faisant un sketch dessus. Voilà, ça c'est dingue quand même. Et Downton Abbey a récolté 3 nominations aux Golden Globes, dont je peux malheureusement pas vous dire plus puisqu'à l'heure d'enregistrer cette émission, les prix n'ont pas encore été remis. Mais je pense qu'avec un bon bon internet et un bon Google, je conseille Google, c'est un très bon site, vous allez pouvoir vous renseigner tout seul à ce sujet.
Comment on épelle ?
C'est Google.
Ah d'accord.
Avec deux O.
Google, G-E-L.
Alors, okay. Le pitch, on va faire court. 1912, le Titanic casse sa pipe, la famille Crowley, qui a une super baraque percée plus proche des héritiers dans l'accident, et comme elle n'a que des filles et qu'elle aimerait bien que la maison reste dans son giron, elle veut marier sa fille aînée à un lointain cousin qui n'est pas très au fait des fastes et du protocole de la haute société. Le personnage principal de Downton Abbey, c'est donc Mary, qui représente l'avenir économique et financier de la famille, mais qui veut surtout trouver l'amour et épouser celui qu'elle aura choisi. L'autre personnage important de la série, c'est Bates, le nouveau valet de chambre du comte. C'est un homme infirme, un mutilé de guerre dont la relation privilégiée avec Monsieur, qui a combattu à ses côtés, va attiser la jalousie des autres domestiques. C'est donc un récit qui s'articule autour de deux mondes, de deux étages en fait, celui d'en haut, le terrain de jeu de la petite noblesse anglaise, et celui d'en bas, qui est celui de la domesticité. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, j'en pense que je ne comprends pas très bien l'engouement pour cette série. Voilà, agréable, confortable, mais qui m'ennuie un peu, je la trouve très très plan-plan. Et pour moi, c'est peut-être du téléfilm, pire, du plus belle la vie à l'anglaise.
Ouh là là. Myriam n'a peur de rien. Un jour, je vous dirai ce qu'elle a écrit sur David Bowie sur Facebook, je vous le dirai un jour.
Bon, Kevin, mais toi, t'as bien aimé. Mais toi, tu es gentil.
Moi, je suis gentil, mais par exemple, dans une dernière émission, j'étais un peu le seul à ne pas avoir aimé Borgen. Là, je crois que je fais un peu contre-exemple. C'est un sujet qui, a priori, ne m'excite pas du tout. Tout ce qui est un peu historique et tout ça, ça me rebute a priori. Mais là, je trouve que c'est super bien traité. Il y a des personnages vraiment très très attachants, surtout parmi les domestiques, je trouve. Il y a Bates, qui, en plus de son infirmité, vit une histoire d'amour un peu bancale. Il y a Carson, qui est le chef des domestiques, qui est maniéré
et qui a une sacrée gueule.
Oui, ouais. Exactement, une sacrée
c'est
gueule,
l'acteur
une sacrée
anglais.
Oui.
Ouais, il pourrait plus pure tradition.
Ouais, il pourrait pas faire autrement. Comme ça, il y a qui a d'autres d'incroyables.
Il y a Maggie Smith aussi.
Oui, ça, on ne voit voilà. Qu'elle.
La grand-mère donc qui était McGonagall
dans Harry Potter. On a les mêmes références.
Voilà. Je crois qu'elle a dû jouer tout Shakespeare, mais elle a fait la vieille sorcière.
Écoute, on a changé de robe.
On a les références qu'on a.
Écoute, j'ai les mêmes que toi, je te rassure.
Voilà. Mais je trouve que tout ça, l'un dans l'autre, fait que la série est vraiment touchante. Il y a aussi quelque chose que je trouve que dans beaucoup de films historiques, films ou séries, les costumes font vite déguisement. Je trouve qu'ici, ça paraît beaucoup plus naturel.
Moi, je trouve qu'elles ont de très belles robes. C'est très girly comme remarque, mais j'adore leurs robes.
Non, mais
on laisse le silence à s'allier dans tout le
Ça participe du fait que c'est très, très plaisant à regarder. Et c'est le genre de série duquel je consomme 3-4 épisodes d'affilée, alors
c'est. Oh là, moi, revenir à la fin d'un épisode.
Pète la télé avant.
Non, mais voilà.
Bon, bah, c'est à toi, Olivier. Voilà.
Je laisse la parole à la défense.
Oui, c'est vrai, parce que tu seras le seul à défendre.
Voilà. Et pour rajouter, enfoncer peut-être un peu plus le clou, je préfère ce genre de série à Mad Men, par exemple, qui est aussi ce même parallèle de série un peu historique d'ambiance, etc. Et je trouve qu'ici, maintenant, c'est peut-être que je préfère...
plus pittoresque.
Voilà.
Il y a plus de campagne.
Il y a plus de charme dans la vieille Angleterre que dans le monde de la pub américain. Mais
je suis d'accord avec le parallèle, je crois. Voilà. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre les deux.
Je vois pas. Mais
Le côté historique, reproduction, presque à l'identique d'une époque, d'une esthétique.
D'une
tout
époque,
est mis dans
d'une
les costumes.
Mise à mal par l'arrivée, la mutation.
Voilà, exactement. Oui. On est dans un basculement d'époque avec cette gentry anglaise qui est... recherche qui est encore dans l'époque de Jane Austen avec cet héritier qui ne peut être qu'un mâle, etc. Et en même temps, on arrive dans l'époque moderne. Et vraiment, tout est basé sur les costumes, forcément beaucoup les dialogues, la complexité des sentiments. Et donc, voilà, la défense a parlé. Moi, je vais commencer par du bien en disant que je reconnais plein de qualités à cette série, sans doute. Je comprends que ça fasse un carton énorme en Angleterre.
Ah oui, en Angleterre, oui.
Voilà.
Oui, mais aux États-Unis.
Je finis le... Voilà, je comprends les qualités intrinsèques. Ce sont des bons acteurs, c'est sans doute bien écrit. Si on suit l'ensemble de la série, ce que je n'ai pas fait, sans doute qu'il y a des relations intéressantes entre les personnages, etc. Mais voilà, moi, c'est épidermique. La gentry anglaise, la campagne de début de siècle, c'est épidermique. Jane Austen, raison et sentiment.
Gosford Park d'Altman, qui a été scénarisé par le même bonhomme qu'ici, Julian Fellowes.
Encore une fois, j'adore Altman, je l'ai vu, mais j'avoue que dès qu'on est dans la campagne anglaise, dès qu'elles sont en costard, et dès que ce sont de longs silences autour d'une table avec le bruit des couverts, ça m'insupporte.
Sors tes couteaux.
C'est insupportable. Pour moi, c'est un truc épidermique, raison et sentiment.
Mais enfin.
Toutes les magnifiques adaptations, je suis content de choquer Myriam pour une fois.
Tu n'as pas aimé raison et sentiment.
C'est insupportable. T'as envie de te lever, de leur mettre trois claques et de leur dire ok, vous vous aimez, mettez-vous trois coups et c'est bon, on y va. Et ici, voilà, c'est ce côté de tension intérieure permanente, de convention entre les personnages. Ça fait partie de l'époque.
Ouais, c'est
et
ça,
de la raison d'être de la chose. C'est pour ça que mon avis n'est pas objectif par rapport à la qualité de la
c'est
série.
C'est pas ta cam.
C'est vraiment pas ma cam. Voilà,
mais c'est marrant parce que je suis de ton avis pour raison et sentiment, mais je sais pas, il y a un truc ici dans la série.
Mais j'avoue que comme j'ai beaucoup été chercher sur internet, j'ai plein de spoilers, les amis, par rapport à la première saison. Et donc,
on ne parle que de la première saison, puisque c'est la seule qui est sortie chez nous en DVD.
Donc j'ai cru un peu comprendre ce qui se passait dans. Ensuite, et bon, ça va être une tempête de sentiments, les amis.
Oh moi, ma réserve, elle se situe moins à ce niveau-là qu'au niveau d'une certaine complaisance pour un modèle quand même très féodal, même s'il est remis
en question
par la modernité.
Terrible.
Oui, et puis il y a quand même des personnages qui deviennent féministes aussi.
Oui, mais on sent quand même de la nostalgie par rapport à un ordre, à une structure où chacun est à sa place, les domestiques dans les cuisines ou dans le grenier pour leur chambre.
Ça expliquerait le succès de la série
Je pense qu'en tout cas en Angleterre, visiblement, il y a quand même eu quelques réserves par rapport à ça. C'est le modèle qui est présenté quand même un peu, qui est mis en avant derrière ça. Moi, je suis resté. Voilà, je trouve qu'il y a des bonnes choses. La reconstitution historique, je trouve que le suspense est plutôt bien mené, mais je trouve que ça manque un petit peu de piquant par rapport au système et à la structure du système, où ici les domestiques sont pour la plupart quand même contents d'être là, alors qu'ils sont ils sont traités de sous-hommes. Ça me dérange un petit peu, quoi, que ce ne soit pas plus remis en question et que cet aspect-là soit pas plus développé.
Parce que les ressorts que j'ai vus dans la série ne tiennent pas tellement là-dessus. C'est plutôt les relations entre les personnages, le suspense pour que l'un puisse se marier avec l'autre, etc. C'est pas tellement sur ce ressort-là qui effectivement est intéressant. Quoi.
Une petite note sur 10, moi je mets 5.
Moi je mets 6.
Moi je mets 8 carrément.
Mais enfin.
Je vais mettre 5 par goût personnel.
On parlait donc de Downtown.
Downtown.
Vas-y Kevin.
Downtown Abbey.
Merci Kevin.
I said it must be, cause the nigga got dough. Extraordinary swag in the mouth full of gold. Hoes at my shows, they be stripping off their clothes. And the college girls write a nigga name on their toes. Niggas talk shit till they get locked jaw. Chrome till you don't, till you get locked jaw. Party like a cowboy.
Le disque du jour, c'est l'album d'A$AP Rocky, Long Live A$AP. A$AP avec le sigle dollar à la place du S.
Très
sans
important.
Surprise. Bah oui, c'est donc un disque de rap. C'est le premier album d'A$AP Rocky dont certains ont peut-être entendu parler parce qu'il joue le rôle de JFK dans le clip de Lana Del Rey, National Anthem. Alors cherchez la ressemblance, moi je ne l'ai pas vraiment trouvé. En tout cas, il sait s'entourer, le jeune homme, puisque sur Long Live A$AP on retrouve des featuring avec la crème de la scène rap actuelle. Il y a Kendrick Lamar, il y a Drake aussi, pour ne citer que, c'est pas mal quand même. Alors je l'avais vu, il y a aussi Santi Gold. Je l'avais vu en concert l'an dernier à la baie. Je vous avoue qu'après ça, je suis comme ça. J'étais quand même un peu inquiète après le concert quant à la tenue de l'album parce que il avait une bonne énergie sur scène, mais c'était quand même vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, la moitié de la salle s'est barrée pendant le concert parce que c'était beaucoup trop.
Et quoi, une bande, des micros, etc.
Oui, c'est ça. Et un pote, hein, comme tous les rappeurs, ils ont un pote à côté. Et en fait, donc
c'est un cousin.
Oui, c'est ça.
Il n'a pas de boulot.
Qui a envie de se taper des meufs et tuer des gens sur scène parce que oh mon dieu, c'est tellement.
C'est les derniers qui peuvent alors qu'ils en profitent. Mais...
Donc cet album est une bonne surprise, je trouve, avec des morceaux bien produits, efficaces. Bah, c'est du rap classique, hein, mais porté par le flow nonchalant d'A$AP qui lui donne une couleur un peu indolente, un peu embrumée, enfumée même. J'ai aimé, pas tout. Par exemple, le morceau avec Skrillex, c'est quand même bien, bien bourrin. Hein,
on a l'impression d'être dans un flipper. Hein.
Oui, ça, c'est complètement dégueulasse. Quoi. Mais bon, Laurent, toi, t'as pas kiffé.
Bah, je suis partagé parce que je trouve pas ça mauvais. C'est plutôt entraînant et même à la première écoute, je trouve que la plupart des morceaux passent plutôt bien. Ce qui me dérange un peu, c'est que ça sent un peu la recette. Avec notamment cet abus de featuring, tu citais Lana Del Rey, le caméo sur le clip. Ici, c'est Santigol, Lamar.
Il y en a 8, je crois, en tout.
Joy Badass. Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment authentique de vouloir collaborer et travailler avec tous ces gens?
Ou est-ce que l'authenticité existe encore dans le rap
américain?
Ouais,
on peut
américain.
Se poser la question, mais alors est-ce qu'il n'y a pas derrière une
c'est
méthode,
quoi être authentique,
une espèce de méthode?
C'est quoi être?
Bienvenue sur le podcast Philosophie de Poki.
Et voilà, donc c'est un peu un fourre-tout comme ça. Je me dis, est-ce que c'est un fourre-tout parce que ça correspond à son état d'esprit et son envie d'aller un peu voir de tous les côtés? Ou est-ce que c'est simplement parce qu'il se dit, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Ben, il y a ça, il y a un petit côté R&B sur certains morceaux. Puis il cite Nigger à tous les coins de phrase.
Ouais. Nigger, bitch et motherfucker.
Et ça,
c'est
parti.
Ça devient un peu systématique.
Ah bah oui, c'est, moi, ça n'explose pas le cadre.
Voilà,
il y a d'autres bons albums où il y avait ce problème-là, mais je crois que c'est plutôt très représentatif de cette nouvelle génération du rap qui arrive où c'est très segmenté. C'est de l'écoute au morceau et pas à l'album. C'est l'époque Spotify et compagnie. C'est,
ouais, mais par
on
exemple,
sent
Hot
cette influence-là très
Hot
fort.
Future quoi. Va plus loin, je trouve, dans l'originalité. Mmh. Il casse beaucoup plus le cadre.
C'est vrai.
Où ici, tu sens quand même un truc qui est malgré tout un peu marketé. Alors c'est marketé dans le style qui se veut un peu à l'avant-garde du rap américain, mais tu sens les ficelles.
Complètement.
Alors que dans Hot Future, tu sens un truc qui explose et qui est plus underground et qui
est plus underground que ça. Effectivement, ici, pour redire un peu d'où il vient, ça fait 2 ans qu'en gros, il est très présent sur la scène rap aux États-Unis. Il a tourné ici, mais il ne faisait que des singles, que des featuring.
Un très bon featuring sur un morceau de Theophilus London que je vous conseille, qui est vraiment très très bon.
C'est à retenir, je ne connais pas. Oui. Mais voilà, donc il a fait une carrière qui est basée vraiment pratiquement là-dessus depuis 2 ans sur des singles. Son album a été reporté une fois, 2 fois, 3 fois.
Et donc il renvoie la balle.
Voilà, c'est un mélange comme ça. Il a plein de producteurs ici. Il y a 8 productions, je crois. Enfin, ça part effectivement dans tous les sens. Peut-être que c'est l'avenir du rap.
Pour faire un album. Est-ce que c'est pas un moment
où je pense que non.
Toi, t'es dans la hype. Il faut qu'on fasse un album. On va appeler un tel et un tel.
Tout le monde était comme ça. Je pense que 50 Cent, quand il a démarré, il y a eu une hype qui s'est fait autour d'un morceau. Après, le type s'est construit une carrière et finalement des bons albums, etc. Donc ici, il a 24 ans, le gars. Ça, il faut quand même pas oublier. Mm-hmm. Ce type est vraiment très jeune. Quand j'ai vu des images de lui sur scène, il a vraiment une tête de gosse. Enfin,
c'est un ado, c'est un chien fou ado.
Alors qu'il raconte quand même des choses, de ce que j'ai pu comprendre malgré son phrasé et ses gros mots, ça reste du... Enfin, c'est du gangsta rap, du dirty sauce.
Ouvre tes cuisses et laisse-moi goûter.
Voilà, ça fait partie de l'imagerie et du truc, on en pense ce qu'on veut. Ça fait partie de ça. Moi, c'est plus son flow qui m'a embêté. Je trouve que le côté éclaté... J'ai l'impression que c'est le rap de 2012 ou de 2013 va ressembler à ça, avec pouf, plein de producteurs et des featuring, un truc complètement marketé pour les 18-25 ans kids américains.
Ouais, pour moi, ça fait un peu, c'est le nouvel habillage du gangsta rap. Alors ça passe mieux auprès d'un public un peu plus, on va dire, bobo, parce qu'il y a une petite touche un peu plus avant-gardiste.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est du gangsta rap, tu as cité.
Mais
texte,
c'est quand même du rap pour les gens qui aiment le rap, je crois.
Oui, parce que
je ne suis pas d'accord quand tu dis que c'est un peu bobo.
Il y a des boucles, il y a de la répétition, il y a le flow comme ça, très lancinant.
Mais ça, c'est ce qui fonctionne bien, je trouve, dans l'album. Mais je trouve que ça n'apporte pas grand chose. On parle de nouvelles vagues. Je trouve sur cet artiste-ci en particulier, c'est pas marquant la nouveauté. Pas
on est bien d'accord.
J'avais reçu plus de claques avec Pharrell ou ici Kendrick Lamar qui est un de ses gros featuring. Le Fucking Problem, c'est un super morceau en soi. C'est un single terrible qui reste dans la tête. On est en Belgique, on peut dire fucking parce que quand tu l'écoutes sur YouTube, c'est extraordinaire. Ce morceau, tu n'entends rien.
T'as que des trous.
Comme c'est tout le temps coupé. C'est
mais j'ai pas entendu la version YouTube.
Il faut quand même écouter ces points-là. C'est problems, problems. Tous les morceaux sont comme ça tout le temps. Et comme il dit beaucoup de gros mots, les garçons.
Oui, effectivement,
les Niggas, ils ont laissé.
Je crois, mais oui, pas surtout. Quand ça passe avis, à la TV, dans les shows télé, c'est coupé.
Parce que si avis... t'enlèves tous les gros mots, il doit
t'as plus rien, mais je te dis, tous les côtés, c'est vraiment drôle. T'as besoin de voir un karaoké.
Tout à fait. À mon avis, Spike Lee ne doit pas aimer l'album.
Spike Lee n'aime rien.
Spike Lee, si tu nous écoutes.
Pour revenir à cette polémique autour du film de Tarantino, où il trouvait que le mot nigger était utilisé beaucoup trop souvent.
Merci Spike Lee.
Parce que quand il a vu la séquence en direct au Grand Journal, et lui qui est déjà très nerveux et borderline, quand il a vu Spike Lee sur l'écran cracher sur son film, on a cru qu'il allait sortir je sais pas quelle arme et trucider Deniso et la bande.
Mais c'est pas neuf, hein, la petite âne entre Spike Lee et Tarantino. Je crois qu'à l'époque de Jackie Brown, il y avait déjà eu des petits mots.
Spike Lee est habitué, hein, Eastwood aussi, voilà. il lui a déjà filé quelques mandales.
Bon, Kevin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'album d'A$AP Rocky?
Oui, bah, oui, on va recentrer
sur A$AP.
On se rassemble, on se stabilise.
Voilà, bah, merci. Mais sinon, moi, je viens pas spécialement du rap et j'ai pas une énorme culture rap.
C'est peu, pas du tout.
Non, je m'y suis mis il y a quelques années, mais donc voilà, j'ai pas grandi là-dedans et donc j'ai pas énormément de références, mais je trouve que par rapport à ce que je connais, j'ai entendu beaucoup mieux à côté. Et je trouve qu'il y a quelques vraiment très bons morceaux sur l'album, dont ce Fucking Problems ou ce tiens, je l'ai noté.
Goldie, je crois que c'est un des singles qui est sorti.
PMW aussi avec Schoolboy Q, qui sont deux vraiment très très bons morceaux, je trouve, où ça bourrine bien. Ce que je trouve plus dérangeant sur l'album, c'est tous ces morceaux un peu plus lancinants, un peu. On fume des joints, c'est bien. On voit
ça fait de grands albums de rap, c'est pas trop le cas ici sur les morceaux. Son flow est un peu. On accroche pas. Ça, moi, c'est un peu difficile.
C'est un peu, pour moi, il y a beaucoup de morceaux de l'album qui ont sonné pour moi comme du reggae où c'est impossible d'apprécier si on n'a pas soi-même fumé avant. Quoi. Mais il y a effectivement quelques fulgurances, que je retiendrai. Et j'ai l'impression aussi qu'il garde ses meilleures chansons pour les featuring.
C'est ce qu'il rapporte.
Oui, écoute, oui.
Sauf celui avec Skrillex.
Oui, non, ça c'est.
Non, mais l'association Skrillex, tu te dis, c'est quand même, c'est pas spontané, ça vient pas de lui, ça.
Mais il y a plein de.
Est-ce que.
Bien sûr.
C'est bourrin, mais c'est efficace, quoi. Je cracherais justement.
RCA Records, c'est pas des indépendants, hein. C'est la boîte d'Elvis et de David Bowie pour y revenir.
Et ça, c'est quand tu passes du pétard à l'acide, alors.
Voilà, c'est ça.
Exactement, c'est ça, exactement. Thomas Roland. une couture 10, 7 pour ma part, Kevin.
J'hésite entre 5 ou 6. Je vais mettre 6 par.
Parce que t'es gentil.
Voilà, parce que je suis gentil.
6 aussi, parce que c'est pas scandaleux.
Voilà, c'est pas scandaleux, 6, d'accord avec le chef.
Long Live A$AP, le premier album d'A$AP Rocky. Et on termine avec un livre, un roman d'un jeune type dont je n'avais jamais entendu parler avant que le chef me mette un flingue sur la tempe pour m'obliger à le lire. Fuminori Nakamura, c'est un japonais. C'est étonnant, hein, mais je vous jure.
Oui, ils font de la littérature au Japon.
Il a reçu en 2010 le prix Kenzaburo O, je le prononce certainement très bien, qui est apparemment la plus prestigieuse récompense japonaise en matière de littérature. C'était pour ce roman Pickpocket qu'on a donc lu cette semaine, un drôle d'objet très 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 exotique, dans lequel un voleur à la tire est approché d'un côté par une mère et son fils, la famille qu'il semble ne jamais avoir eue, et de l'autre par un gros truand qui lui commande un cambriolage de grande envergure. C'est un thriller dans lequel on ressent toute la solitude du personnage, pas vraiment de la mélancolie, plutôt une sorte de vide, comme je crois qu'on en retrouve au Japon ou dans ces sociétés où les émotions et leurs expressions sont extrêmement vulgaires. Une fois encore, un livre qui nous joue une petite musique lancinante à l'oreille à laquelle il faut pouvoir être sensible pour adhérer. Moi, ce fut le cas, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Merci, patron.
Merci, patron.
Et toi, Olivier, tu connaissais
Mais pas du tout, donc excellent choix du chef. Je ne connaissais pas du tout, je ne suis pas du tout un spécialiste de littérature nippone. Même pas du polar nippon, même s'il se passe beaucoup de choses, on va peut-être en parler. Et c'est vrai que moi, j'étais complètement charmé par ce bouquin, qui se lit vite, hein. Moi, je l'ai cassé en 2-3 heures. Et on rentre dedans. Et justement, tout ce que j'avais peur d'y trouver, je ne l'ai pas eu. Donc, tout ce côté éthéré de l'univers japonais, c'est une société, moi, qui m'inquiète plus qu'elle ne me fascine.
Oui.
J'ai pas d'atome crochu particulier avec ça. Et ici, au contraire, on rentre dans l'action directement. C'est à la première personne du singulier.
Au présent.
C'est la première personne singulier du présent. Ça fait longtemps que je ne peux plus faire grammaire. Donc voilà, on rentre directement dans l'action. C'est pas du tout... Enfin, il ne se regarde pas, c'est vraiment directement, il se passe des choses, on est directement en contact avec ce pickpocket dont c'est le boulot, et il va raconter son balai parce qu'il y a toute une magie. Donc l'image du cambrioleur dans les polars, c'est loin d'être neuf. Lui, il en apporte un côté vraiment poétique, effectivement, et directement on rentre dans des choses qui sont cette fois-ci typiquement japonaises, qui sont ce rapport à l'enfance, ce rapport aux femmes, cette mafia japonaise, un méchant qui fait partie des plus méchants que j'ai vus depuis longtemps dans les polars.
Il a un super monologue d'ailleurs.
Extraordinaire.
Un vrai monologue de méchant. Voilà.
Cette histoire où il raconte cette légende ce roi, c'était excellent.
Il y a tout est basé beaucoup sur le dialogue ici, sur les choses vraiment très directes. Et en fait, ce que j'ai aimé dans ce bouquin, indépendamment de son histoire qui est très forte, avec une fin qu'on racontera pas, qui est surprenante, etc., c'est en même temps, ça ne peut être que japonais, parce qu'on retrouve, on va en parler aussi, j'imagine, beaucoup d'influence de Kitano. Moi, j'ai directement eu cette image quand je suis rentré dans le bouquin, et on est avec pratiquement sa gueule, avec les costards, la cravate. Enfin voilà, on voit le côté impassible, action qui arrive, des cuts très vite dans les actions, cette image-là. Et en même temps, une mondialisation du genre, parce que je trouve qu'ici, il y a des figures et des manières d'écrire qu'on retrouve dans la littérature américaine, qu'on retrouve parfois dans des romans français. Vraiment une mondialisation du genre, des influences qu'apparemment l'auteur a eu. Il est jeune, je crois qu'il est né en 74 ou 76. Il est vraiment jeune. Même un peu plus, tu as raison, je crois qu'il est né en 78. Ouais. Enfin, voilà, on sent des influences vraiment mondiales par rapport au style, par rapport aux références du polar, du thriller, de l'image, tout en restant dans un cadre purement nippon et avec une musique qui a un genre qui ne peut arriver que là-bas. Et ça donne un truc vraiment succulent. Et on a vraiment envie de suivre cet auteur. Je pense que c'est son premier bouquin qui a été traduit ici, si je ne me trompe pas. J'en sais peut-être plus. Donc voilà, c'est vraiment une très, très, très bonne surprise.
Donc Laurent, t'es content de nous l'avoir fait lire?
Ouais, je suis content de vous l'avoir fait lire. Je suis content de l'avoir lu aussi, parce que c'est vraiment les éditions Piquet qui sont spécialisées dans la littérature lointaine et japonaise en particulier, pas uniquement, mais surtout japonaise. En général, ils ne se trompent pas, puisque s'ils mettent le paquet, ils doivent traduire. Enfin, c'est quand même un gros investissement pour eux. Et oui, ici, c'est comme dit Olivier, on s'inscrit dans un courant typiquement japonais, que ce soit au cinéma avec des Koreeda, des Kitano, mais aussi dans le courant littéraire avec quelques écrivains, notamment Ryu Murakami, pas le Murakami qu'on célèbre.
Non, l'autre, celui qu'on ne connaît pas.
Celui qu'on ne connaît pas.
Mais que toi, tu connais.
Qu'on connaît moins.
Oui, enfin, qu'elle a une version underground du Murakami, qui sortira d'ailleurs bientôt underground, mais bon, ça, on en reparlera. Mais Les bébés, la consigne automatique, par exemple, qui parlait de des adolescents à Tokyo, une jeunesse complètement marginalisée, mais sous des apparences tout à fait normales, puisque là-bas, c'est très important. Ben ici, on retrouve aussi, on est avec des personnages de la marge, mais qui sont malgré tout dans des structures. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que c'est pas une marge comme on la conçoit de loser, c'est une marge avec des codes et des fonctionnements quand même très établis, que ce soit via la mafia et tout ça. Et donc, ça crée une espèce d'atmosphère très particulière. Et il y a un côté, moi, qui me fascine et qu'on retrouve ici, c'est très minimaliste. Donc, c'est descriptif, mais très cut. Et en même temps, il arrive à laisser infuser comme ça des choses, des sentiments très très forts. Et donc, c'est dans les interstices du récit qu'on peut se projeter et remplir et déposer nos propres angoisses. Et voilà, il y a toujours ce côté étrange. On est un peu dans le réel, mais pas tout à fait, parce que les personnages ont l'air tellement décalés qu'on n'y croit pas, mais en même temps on y croit complètement. Et donc c'est assez fascinant.
Et puis dans le genre onirique, il y a toujours une tour à la fin de
quelque chose. Son angoisse est symbolisée.
C'est un peu le réalisme magique, quoi, dans la transposition dans nos contrées. C'est cette tour qui vient dès qu'il a angoisse par rapport à sa mauvaise, une espèce de mauvaise conscience qui le regarde, par rapport au rôle qu'il joue et au boulot qu'il fait et à tout ce qu'il a raté et qui a l'air quand même assez important. Tout
ce qu'il faut expliquer sur le contenu du bouquin, qu'à un moment, voilà, il a une relation avec un enfant qui va lui arriver dans les pattes, et la seule chose que le gars peut lui apprendre, c'est d'être un pickpocket, donc il ne peut pas lui apprendre autre chose. Et ça donne des très belles pages, je trouve, sur la manière de voler. Mais c'est des thématiques qu'on retrouve, voilà, encore une fois.
Nobody Knows, de Koreeda, avec ses enfants qui se débrouillaient seuls parce que les parents avaient disparu dans un appartement.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai.
Mais typiquement, ce petit garçon, ici, il a une mère, mais on l'imagine très bien, ou I Wish récemment, très bien ce type d'enfant, de petit japonais comme ça, qui est déjà trop mature par rapport à son âge et qui comprend déjà des choses qu'il ne devrait pas comprendre. Et là-bas, noyé dans, ou baigné dans cet univers-là, il est obligé de dépasser de l'enfance.
Ce petit garçon souhaiterait peut-être intégrer une institution, un centre fermé.
Bon, il a une mère assez particulière aussi. Hein, donc,
oui, mais ça l'intéresse. Il dit, oh tiens, il y a des centres qui peuvent m'accueillir.
Ils sont assez obsédés par le fils prodige, hein, j'ai l'impression, en Asie.
Mais l'image de l'enfant errant ou assaut entre guillemets, qui est l'incarnation de la repentance et de la rédemption, ça revient dans chez Kitano, c'est omniprésent dans plein de films.
Et parce qu'on donne aussi visiblement dans la société japonaise un rôle à l'enfant qui est un rôle à responsabilité. Enfin, je dis, ils doivent se prendre en main. Il y a quand même quelque chose au-delà de l'aspect normatif. Ça rigole pas, quoi.
C'est
des responsabilités énormes qui pèsent sur eux. Et puis, on peut revenir juste sur un aspect que je trouve aussi intéressant, c'est l'occupation du personnage qui est un peu la clé qui va le conduire dans des choses trappes, mais c'est le pickpocket, espèce de pickpocket parfait. Donc, c'est un monde aussi qu'on côtoie pas tous les jours, enfin, ou alors à ses dépens, mais je trouve que c'est super bien amené, la manière, toute l'art du pickpocket, parce que c'est élevé au rang d'art ici.
C'est traité comme un ballet, je trouve, ces pages là-dessus, c'est une danse quoi qu'il fait, c'est presque une transe qu'il a dans la foule. Et
on se demande s'il n'a pas lui-même été pickpocket, parce que la manière dont il décrit chaque geste du pickpocket, de ses bruissements de doigts,
le lire, il faut revoir sa biologie et sa physique et savoir où est le majeur, l'index,
exactement.
Dont le personnage se sert plus presque pour la beauté de l'art que pour un enrichissement personnel. C'est vraiment dans une espèce de tradition, si je fais quelque chose, je le fais bien et je le fait avec élégance, quoi.
Tout à fait.
Et alors, le rôle de la femme dans ce bouquin est quand même assez interpellant.
Voilà, ça reste le cliché japonais là-dessus. C'est s'il y a des écueils à trouver, c'est évidemment là-dedans. Elles sont toujours ou suicidaires, ou déprimées, ou battues, ou femmes-objets.
Oui, femmes-objets, de toute façon.
Ça reste vraiment les images, bon... C'est vraiment du cliché qui ne nous parle pas en tant qu'occidentaux. Ils ont un rapport chelou avec,
d'ailleurs,
avec leurs épouses, maîtresses et femmes.
Mais qui hantent malgré tout les personnes.
Ici, c'est typiquement ça. En gros, on peut le dire. Hein, en gros, il a perdu sa muse, sa femme qui s'est suicidée. On la voit en trois pages, qui se plaint sur elle-même et puis qui se tue. Voilà, c'est l'image de la femme.
C'est sympa.
Et l'autre est prostituée et droguée, je ne sais plus.
Je ne sais pas si c'est voulu, mais d'ailleurs, dans quasiment tous les portefeuilles qui volent, il y a chaque fois une carte de visite
de pute.
Alors voilà, je ne sais pas si...
Mais ils ne volent que les riches. Hein, donc,
Mais ça dit plus sur le côté détraqué des hommes japonais plus que sur les femmes.
Oui, ça
interpelle de ce côté-là.
Je trouve que là-dessus, il ne passe pas au-dessus du cliché, là où, dans ce que tu as dit... Partout, on retrouve des choses qu'on s'attendait à voir, mais il en fait autre chose de plus intéressant.
C'est le côté un peu Welbeckien, pour utiliser un terme, un adjectif savant, de la société japonaise et de ce bouquin-là aussi. C'est un peu la misère sexuelle et la misère des sentiments et qu'on retrouve très présent dans le cinéma.
On est bien chez nous quand même.
Mais il faut dire d'abord que c'est un super thriller avec, encore une fois, un vrai méchant comme on l'a plus vu depuis très longtemps, qui tient des monologues extraordinaires et qui est vraiment méchant.
Mot de la fin pour Kevin, parce que...
Oui, je voulais juste te mettre une petite réserve par rapport à tout cet engouement. Je trouve qu'il y a juste un petit ventre mou au milieu du livre, justement. Je trouve que, donc en gros, pour ne pas dévoiler l'histoire, il y a quand même deux grosses histoires dans l'histoire, et l'enchaînement entre les deux est un petit peu longué, je trouve. Dans le sens où il repense à son ex, et puis en même temps il donne ses espèces de cours au petit gamin, et puis ça lui fait penser à son ex, puis il voit sa mère, et puis ça lui fait penser à son ex, et puis c'est une espèce de va-et-vient où il y a un moment du livre où je me suis dit mais il l'a déjà raconté ça. Mais bon, à part ça, dès qu'on retombe dans la deuxième partie du bouquin, ces nouveaux haletants et...
Et, on... et encore une fois, c'est vite lu, hein. C'est un livre assez court, enfin, il fait 200 pages, mais écrit grand. Il faut toujours une grosse typo chez eux.
Ouais. J'ai pris quand même plus que 2-3 heures pour le lire, mais je ne lis peut-être pas autant que
mais
toi.
Mais tu es lent, tu es quelqu'un de lent.
Je suis gentil, mais lent.
C'est parce que tu l'as lu dans la version originale.
Voilà. C'est pas ce qu'il fallait.
Oui, oui, c'est pas si facile.
Oui, les pictos, les idéogrammes. Bon, allez, combien sur 10, Kevin?
Oh, ben 8 quand même.
Moi aussi.
Pareil.
Bon. Allez, on va rester dans la norme. Hein. 8, mais je mettrais bien 8,5 pour montrer que c'est vraiment un bon livre qu'il faut conseiller.
Non, mais on ne met pas de demi-point. Donc
un 8 alors. Allez, un 8. Je garderai un 9 pour...
C'était donc Pickpocket de Fuminori Nakamura. Bon, un petit tour de table pour terminer, celui des coups de cœur de la semaine, le mien. C'est une série qui vient de recommencer aux États-Unis, deuxième saison. On en parlera bientôt ici. Girls, de et avec Lena Dunham, une petite nana potelée de 26 ans qu'on compare déjà à Woody Allen, carrément. Alors je dis qu'elle est potelée parce que c'est un peu l'argument de la série. Pas son poids, mais la vie d'une vraie fille, une fille normale, avec ses complexes, avec ses bourrelets, avec ses histoires d'amour foireuses, ses histoires de boulot foireuses, ses amitiés foireuses. C'est foireux, c'est très attachant. C'est un petit bijou d'écriture douce amère. J'adore aller voir... La saison 2 a recommencé depuis le 13 janvier sur HBO aux États-Unis. Coup de cœur de Kevin.
Oui, moi je voulais pointer un groupe à côté duquel je suis passé beaucoup trop longtemps, dont le dernier album est sorti l'année dernière. Le groupe s'appelle Jeff the Brotherhood.
Tu parles bien anglais.
Oui, j'essaie de faire l'accent pour qu'on comprenne bien.
Mmh, c'est bien.
Donc Jeff the Brotherhood.
Voilà,
Brotherhood. Donc c'est un groupe, ils en sont déjà à leur 7e album, mais c'est le premier qui marche vraiment. Ça a été produit par Dan Auerbach, donc le monsieur Black Keys. C'est sorti sur le label de Jack White, Thurman Records.
Ça va.
Ils ont une belle carte de visite. Et alors sur, enfin,
c'est du rap quoi, si je crois.
C'est du rap, c'est ça, exactement.
C'est un peu comme ASAP.
Et sinon, musicalement, on est assez proche de Weezer, avec un côté cracra à la Black Keys en plus. Donc c'est du rock guitare avec des mélodies pop et des synthés un peu pourris, mais qui sonnent bien à garage. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Je suis tombé dessus. Il était dans les vidéos les plus buzz de l'année de Spin, du magazine Spin. Donc sauf que j'ai pas très bien compris comment ça se fait qu'il se retrouvait là, parce que le clip a été vu
12 fois,
8000 fois je crois. J'ai revérifié ce matin pour compter, et il est assez moche, mais c'est ça qui en fait le charme. Mais donc voilà, le clip c'est Leave Me Out, si ça vous dit d'aller le voir.
Merci Kevin. Le coup de cœur du chef Laurent.
Eh bien moi c'est un film, un chef-d'œuvre on peut le dire, qui va éblouir cette année 2013. C'est le film Tabou de Miguel Gomez, un film qui était passé à Cannes avec Fracas l'an dernier, qui est resté
dans quelle sélection officielle?
Non, parallèle.
Un certain regard.
Je pense Un certain regard, qui avait eu une belle presse, mais qui était un film monté avec des bouts de ficelle. Donc il a fallu attendre pour qu'il ait une distribution internationale, mais qui maintenant, depuis décembre, qu'il est atterri sur tous les écrans un peu partout, est un enchantement pour tous ceux qui le voient. Alors Tabou, en deux mots, c'est un film complètement anachronique, à savoir que c'est une référence en partie à Murnau, donc à l'ancienne, tourné en pellicule, noir et blanc, avec une partie muet. Donc voilà, on n'est pas dans le truc Destroy, c'est vraiment l'anti-Hollywood, mais avec un charme fou qui brasse... plein de thématiques qui sont très très auxquelles les Portugais sont très attachés, notamment l'empire perdu, puisque ça se passe en partie dans les colonies au Mozambique, avec une des références aussi au cinéma d'avant qui est en train de disparaître là. Mais d'ailleurs, bon, Gomez le dit lui-même, il a voulu faire un film comme on le faisait avant, c'est-à-dire avec un contrat entre celui qui regarde et le film, un contrat de croyance et d'accepter l'invraisemblable comme étant vraisemblable. Ce qui nous est devenu compliqué parce qu'on a été tellement abreuvés d'images, d'effets spéciaux, qu'on a un petit peu du mal. Et donc il y a une poésie folle qui se dégage de ce film, qui raconte une histoire d'amour, c'est aussi basique que ça, mais dans un contexte qui est pris dans la première partie à l'époque actuelle, et puis revient une espèce de méga flashback uniquement en voix off, avec la partie muette, qui se passe dans la jungle d'une colonie portugaise, avec les rapports entre blanc et noir, entre une espèce de nostalgie par rapport à cet empire portugais qui est disparu. Voilà, c'est un film atypique qui fonce sur la langue, avec un côté Coris Maki dans la première partie, comme ça un peu, on se demande un peu une sorte d'absurdité latente, mais qui est assez succulente. Et puis dans la deuxième partie, ce qu'il y a de meilleur dans le cinéma, quoi. On est transporté, c'est poétique, les acteurs sont beaux, ils racontent une histoire qui est passionnante, la musique qui a été faite d'ailleurs par la bande de Miguel Gomez, parce qu'il travaille en bande avec une co-scénariste qui joue dans le film. Enfin, c'est vraiment, il expliquait hier à l'avant-première que dans le scénario, il devait filmer des éléphants. Ils sont arrivés là-bas, il n'y a pas d'éléphant dans cette partie du Mozambique. Ils ont vu une chute d'eau qui était magnifique, ils ont filmé la chute d'eau et la voix off raconte les éléphants. Voilà, c'est comme ça. Mais ça paraît anodin, c'est du bricolage, mais c'est magnifique. Quoi.
Et donc toi, tu l'as vu au Nova, qui a une version particulière du film.
Voilà, qui pendant 7 semaines, apparemment, le Nova entretient des relations privilégiées avec Miguel Gomez pour avoir montré son premier film. Il en est à son 3e, mais avoir monté le premier il y a 2 ou 3 ans, et Miguel Gomez leur a fait un cadeau, je pense, en leur offrant cette version-là. Donc c'est
35 mm,
un peu tremblotante, mais qui rajoute encore au noir et blanc, et en effet, on a l'impression d'un peu projeté en arrière, mais avec la qualité et le charme qu'il faut. Quoi.
Tabou, donc.
Tabou.
Il a aimé, le chef.
Ah oui, oui. Ça fait plaisir de te voir aussi. Olivier.
Allez, je finis sur plus léger. Je ne vais pas parler de la série Luck parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses d'images. Je vais parler d'une BD. Finissons toujours quand même sur une petite BD. Ça fait partie de la petite collection Vroom dont on a parlé dans un focus tout récent là, avec Nicolas qui parlait du bouquin de Guy Delisle. Mm-hmm. C'est de la même collection. Ici, le titre est déjà une invitation au voyage. Ce livre devrait me permettre de résoudre le conflit au Proche-Orient, d'avoir mon diplôme et de trouver une femme. Tel est le titre du bouquin. C'est un français, Mazas, qui l'a fait. Et en fait, c'est très drôle. C'est vraiment un mélange entre Guy Delisle, Scott McCloud et Platon.
C'est Platon.
Ça part, mais exactement. En fait, c'est un récit philosophique qui profite d'un voyage qu'il a fait pendant 3 mois au Liban pour se poser des questions qui ne sont pas que drôles et passés par des graphiques qui ne sont pas que pertinents, pour raconter le conflit au Proche-Orient, pour raconter ses relations avec les femmes, pour raconter tout ça. Et tout ça donne des dessins hyper drôles, très légers, c'est très minimaliste, on est proche du blog, et en même temps très profond et très drôle, et c'est accompagné avec une carte du bonheur. Et donc vraiment, ça à lire, c'est petit, c'est un premier tome, je ne sais pas s'il va garder des longs titres. Donc le titre, ce livre devrait me permettre de résoudre le conflit au Proche-Orient, d'avoir mon diplôme et de trouver une femme. Quand on arrive à la fin du bouquin, il résout une partie de tout ça, mais je ne vous dis pas quoi.
Merci Olivier.
Merci.
Eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Donnez-nous votre avis sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/focusstore. On se retrouve dans 2 semaines. Et d'ici là, n'oubliez pas d'acheter le Vif Express, puisque c'est là, dans son package, bien au chaud, que vous nous retrouverez, version papier, toutes les semaines. Merci tout le monde.
Au revoir.
Merci,
au revoir.
Et hasta la vista, baby.